Jésus donc guérit un aveugle. Mais en quoi cela nous concerne-t-il ? Ça s'est passé il y a 2000 ans et nous ne sommes pas directement témoins de la scène. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, nous n'attendons pas tellement de nos pasteurs ou de nos prêtres qu'ils guérissent nos problèmes oculaires. Alors certains interprètent ce genre de texte en disant que c'est une preuve de la puissance divine de Jésus-Christ. Donc si Jésus arrive à guérir un aveugle, c'est qu'il est très fort et qu'il est bon de croire en lui. Je ne suis pas très convaincu par ce type de lecture, parce que dans ce cas-là, cela voudrait dire que tous les miracles de l'Évangile auraient la même signification. Dans tous les cas, Jésus prouve sa force et sa divinité, et finalement, d'une manière d'ailleurs un peu tordue, parce qu'aujourd'hui, nous n'attendons pas du Christ qu'il fasse ce type de miracle. Et donc cela nous exclut, en quelque sorte, de la puissance même qui serait révélée dans le texte. Alors aujourd'hui, les théologiens contemporains lisent ce texte autrement, en disant, il faut comprendre que ces textes-là, tous, parlent de nous aujourd'hui et maintenant. Et donc la question n'est pas de savoir ce qui s'était passé il y a 2000 ans, mais la question c'est de se dire, où suis-je moi dans ce texte ? Et je peux le comprendre dans ce cas, et dire oui c'est vrai, moi-même je suis aveugle, parce que je ne vois pas toujours très clairement qui je suis, je ne vois pas clairement qui est Dieu, je ne vois pas clairement où je vais, ou ce que je dois faire, ou même qui est l'autre. Et il y a donc bien des choses que je ne vois pas. Et par conséquent, la signification symbolique du texte devient beaucoup plus intéressante pour moi, parce que je peux comprendre comment Dieu peut m'aider à y voir plus clair. Et je pense en effet que la réflexion, la lecture de la Bible, la prière, sont des choses qui peuvent m'aider à voir l'essentiel qui est invisible pour les yeux, peut m'aider à m'ouvrir les yeux sur l'essentiel et à trouver une certaine lumière. Et du coup, on comprend bien, je crois, ce que peut représenter cet aveugle. L'aveugle dans le monde spirituel, non pas l'aveugle avec ses yeux, qui peut être parfois beaucoup plus clairvoyant que bien d'entre nous, mais l'aveugle spirituel, c'est celui qui avance sans savoir où il va, sans but, sans visée dans sa vie. Celui qui avance au hasard, je dirais. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, il est condamné à se heurter à tous les obstacles, à tomber dans tous les pièges de la vie, jusqu'à ce que finalement, en ayant assez de se cogner aux arbres et de tomber dans les trous, il s'arrête en disant « Cela ne me mène à rien et je ne sais pas où je vais, cela n'a aucun sens, je m'arrête et je m'assieds sur le bord du chemin. » Ce qui est bien ce qui nous est dit de l'aveugle de Jéricho, là. Il était assis sur le bord du chemin. Et le texte nous dit en plus qu'il était mendiant, c'est-à-dire que celui qui ainsi n'a aucun but, aucune visée, aucun idéal, finit par être totalement dépendant des autres. Et il mendie, incapable de prendre sa vie lui-même en main. Il perd son autonomie et il dépend des autres qui l'emmènent là où eux décident de l'emmener, c'est-à-dire que ce n'est plus lui qui pilote sa propre existence. Alors donc, effectivement, je crois que le Christ peut aider à trouver une lumière, peut aider à voir où l'on voit, où l'on veut aller, peut donner un idéal, peut éclairer notre route. Et sans arrêt, dans l'évangile de Jean, par exemple, Jésus dit qu'il est la lumière. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand Jésus dit cela, il n'est évidemment pas question d'une lumière EDF comptable en kilowattheure. C'est une lumière intérieure et spirituelle. Et donc, quand Jésus guérit un aveugle, ce n'est pas non plus une question matérielle, c'est une question intérieure et spirituelle. Et c'est assez remarquable, d'ailleurs, que l'on voit là comment Jésus va guérir cet aveugle. Il voit quelqu'un, prenons le sens symbolique de l'affaire, il voit quelqu'un qui est là perdu, découragé, Il ne sait plus où il va. Il va d'ailleurs nulle part. Il s'assied, il n'avance plus. Il mendie. Et simplement, il a une quête. Et il dit, oui, moi j'aimerais bien voir. J'aimerais pouvoir me remettre en marche dans ma vie. Et là, Jésus est extraordinaire parce que il le guérit. Il le guérit sans condition, sans lui poser de questions. Et je trouve qu'il y a là une expression de la grâce et même de la volonté que Dieu a à notre égard de nous laisser libres et autonomes qui est extraordinaire. Jésus ne dit pas à l'aveugle, « Bon, moi je veux bien te guérir, mais si je te guéris, quel usage feras-tu de ta vue ?» Et peut-être effectivement, ayant récupéré la vue, l'aveugle pourrait en faire un mauvais usage. Et Jésus ne lui pose aucune question. « Tu veux voir ?» Ça me semble une très bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, l'aveugle aspire à la liberté. Et là encore, la liberté, on peut en faire un mauvais usage. Ah, tu veux de la liberté, mais est-ce que tu en feras un bon usage? Ça n'est pas la question. Jésus ne demande à l'aveugle aucun engagement, il ne lui fait aucune question, simplement il lui ouvre les yeux et le laisse libre dans sa liberté. Si Jésus avait été un chef de secte, il n'aurait pas fait comme ça. Il aurait dit à l'aveugle, « Ah, tu es un peu perdu, mon frère, ne t'inquiète pas, donne-moi la main, suis-moi aveuglément et je te mènerai à la vie là où il faut. » Jésus ne lui dit pas « suis-moi », il ne lui dit pas « donne-moi la main », il ne lui dit pas « suis-moi aveuglément », il lui ouvre les yeux et c'est l'aveugle ensuite qui fait sa propre route. Je crois qu'il y a là quelque chose d'extraordinairement original dans l'attitude du Christ. Et nous devons méditer cela. Mais cela dit, ce que je vous dis là s'accorde à toutes les guérisons d'aveugles de l'Évangile. Et avec peu de transformation, on peut ainsi comprendre toutes les autres guérisons. Quand Jésus guérit un paralytique, c'est quelqu'un qui est immobile dans sa vie, incapable d'avancer. Quand il guérit un sourd, c'est quelqu'un qui n'entend pas ce qui devrait être entendu, etc. Mais on peut se demander ce qu'il y a de plus particulier à ce récit de l'Évangile de Marc. Parce que chacun des récits va indiquer, je dirais, une cause particulière, une situation particulière. Et là, nous avons un aveugle, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans ce texte? Pour trouver la particularité de ce texte, il faut travailler comme un détective. C'est comme ça qu'on travaille dans les textes bibliques. Quand on se demande ce que peut signifier un texte, il faut regarder le texte comme un détective, c'est-à-dire regarder tous les détails et essayer de trouver le détail qui est curieux, bizarre, discordant par rapport au reste. Et là, j'ai un indice dans ce texte, un indice bizarre. Il y a quelque chose de curieux. Ce quelque chose de curieux, c'est la petite mention que donne Marc, en disant que juste avant d'être guéri, l'aveugle se lève, mais que juste avant de se lever, le texte dit « l'aveugle laissa son manteau, il se leva d'un bond et vint vers Jésus ». Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi Marc prend-il la peine de dire que l'aveugle a laissé son manteau? En fait, on s'en fiche, si vous voulez. Pour l'histoire du récit, cela n'a aucun intérêt. Mais moi, je me dis, Marc, surtout Marc, qui est le plus court, le plus concis des évangiles, ne s'amuse pas à mettre trois mots pour rien. Et donc si Marc nous dit que l'aveugle doit laisser son manteau pour être sauvé, c'est qu'il y a là quelque chose d'une extrême importance. Tous les ans, je m'amuse à soumettre la question à mes catéchumènes. Alors je leur explique ce que je viens de vous dire et je leur dis « Pourquoi l'aveugle a-t-il dû laisser son manteau pour être guéri ?» Et là, ils ont pas mal de réponses. Certains disent « Ah, ben peut-être que s'il était mendiant, c'est que son manteau était sa seule richesse. » Ça, c'est intéressant. En effet, on peut comprendre cela. Peut-être faut-il renoncer à ce que l'on possède, un peu comme le discours du jeune homme riche. Effectivement, l'aveugle renonce à ce qu'il possède et il dit « Je n'ai besoin de rien et je vais vers le Christ ». Parce que mon véritable attachement n'est pas dans ce que je possède, même si je possède peu, mais c'est dans le bonheur de servir un idéal. Bon. D'autres m'ont dit, le manteau du mendiant, c'était sa richesse, mais c'était surtout sa protection. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il avait pour se protéger du froid, de la pluie, du soleil. Et peut-être, en effet, faut-il être capable, pour servir le Christ, de renoncer à ses protections humaines et matérielles, et de dire « ma vie n'est pas une sorte de forteresse, si vous voulez », en essayant de colmater pour éviter que quoi que ce soit nous blesse et nous agresse, mais au contraire, je dois me jeter dans la vie en acceptant le risque d'être blessé, d'avoir froid ou d'avoir chaud, mais je me jette tout nu à la suite d'un idéal et d'une mission qui m'est proposée. Et en effet, renoncer à ces protections fallacieuses, mensongères, trompeuses, à ces forteresses que nous dressons autour de nous et qui finalement nous coupent des autres, eh bien c'est cela que nous devons faire. Renoncer à ces protections humaines pour nous lancer dans le monde avec toute notre vulnérabilité pour mettre notre confiance en Dieu. Ben, je n'y avais pas pensé, c'est mes catéchumènes qui m'ont donné l'idée, je trouve que c'est assez beau. Moi j'avais eu une autre idée. Mon idée à moi, c'est que, comme tout bon théologien, j'ai cherché dans la Bible partout où il y avait des manteaux pour comprendre ce que cela pouvait représenter. Et j'ai découvert que dans la Bible, le manteau représente l'apparence. C'est-à-dire, c'est ce que l'on donne à voir, si vous voulez. En effet, je ne me montre pas tout nu, mais je donne à moi une apparence et je choisis de me montrer sous une certaine apparence. Et donc, le manteau, dans la Bible, c'est, pour faire un néologisme, c'est un « pour être vu des autres ». Voilà, c'est ce que je montre, c'est ce que je donne à voir aux autres. Et là, je me dis, tiens, mais voilà qui est très paradoxal. Voilà quelqu'un qui a un « pour être vu » et qui ne voit pas. Et on retombe dans le problème, effectivement, de la vue. Et peut-être que, effectivement, y a-t-il un lien entre ces deux choses ? Peut-être qu'il ne voit pas précisément parce que sa seule préoccupation était d'être vu des autres. Et peut-être qu'il va trouver la vue précisément lorsqu'il abandonnera son manteau, c'est-à-dire sa préoccupation à paraître. Effectivement, il va abandonner son manteau et en faisant cela, il va abandonner aussi sa préoccupation à donner une bonne image de lui, ou à jouer un rôle dans le monde. Mais il va accepter de se lever d'un bond et de dire « tel que je suis, Seigneur », comme chante ce vieux cantique, « je me mets à la suite du Christ » en se moquant de l'opinion des autres. Alors il y aurait dans ce texte donc une mise en garde en disant « attention, il ne faut pas chercher à paraître autre chose que ce que l'on est, mais nous sommes invités à nous mettre simplement au travail en suivant le Christ tel que l'on est. » Et je crois en effet que la recherche du paraître est quelque chose de stérilisant, quelque chose de paralysant, qui immobilise et qui finalement rend dépendant des autres. C'est ça, voilà, il était mendiant. Il devait mendier son être par rapport à ce que les autres lui donneraient, comme celui qui, dans ce monde, est obligé de mendier l'image qu'il a de lui-même par rapport à l'image qu'en ont les autres. Et en disant « je ne pourrai moi-même être fier de moi que si les autres me considèrent » ou de croire que finalement je vais construire ma propre personne ou la propre dignité que par rapport au regard qu'ont les autres. C'est-à-dire que l'on devient mendiant de l'opinion des autres, dépendant des autres, et finalement, je crois que ça conduit à l'immobilité et à l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et donc voilà, l'aveugle jette son manteau et il se lève d'un bond. La levée, vous savez sans doute, pour avoir fréquenté les bancs durs de cette église, que le mot « lever » dans le Nouveau Testament, c'est aussi le mot de la résurrection. La résurrection, eh bien la résurrection, c'est ça, on évite cette espèce de menace mortelle du regard de l'autre et se moquer du paraître pour suivre le Christ, c'est ça notre propre résurrection. Alors donc, voici chercher à agir plus qu'à paraître, ne pas se regarder soi-même, mais regarder vers les autres, vers notre but, regarder devant, chercher à être plus qu'à paraître, chercher non pas l'apparence, mais la qualité profonde de l'être. C'est tout cela. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve par l'ouverture aux autres. Et finalement, je me suis même demandé si l'aveugle va être guéri au moment où il jette son manteau. Et je me dis, mais finalement, c'était peut-être même son manteau qui le rendait aveugle. C'est-à-dire qu'il ne voyait plus rien parce qu'il était emballé dans son manteau, tellement enfermé dans ses désirs de se protéger des autres et de paraître que lui-même était incapable de voir les autres et de voir quoi que ce soit devant lui. Ou alors il ne voyait rien parce qu'il était trop préoccupé par le fait de se regarder lui-même. Essayez de courir en regardant votre nombril. Eh bien, comme l'aveugle, vous tomberez dans tous les trous et vous vous cognerez à tous les arbres possibles. Et donc on ne peut pas avancer dans ce monde en se contemplant le nombril. C'est le narcissisme qui tue, c'est l'égoïsme qui nous fait tomber et qui nous rend malades. Et ça me fait penser à, évidemment, l'image de Narcisse, vous savez, qui se noie dans son propre regard, ou, sans aller jusque-là, à la réinterprétation qu'on en trouve dans les Schtroumpfs, où on voit le Schtroumpf coquet qui se regarde dans l'étang. Et puis à ce moment-là, il y a un autre Schtroumpf, je ne sais plus, je ne suis pas spécialiste des Schtroumpfs, le Schtroumpf plaisantin, je crois, quelque chose comme ça, qui arrive et qui jette une pierre dans l'eau, ce qui fait que le Schtroumpf coquet se trouve tout éclaboussé. Eh bien, cette image est belle. C'est ça, c'est que quand on est dans la contemplation de sa propre image, l'autre ne devient que quelqu'un qui nous dérange. Et on finit éclaboussé par l'intrusion de l'autre dans notre propre image. Alors ce qui est magnifique, c'est que si on pense au Christ même, à l'image même du Christ, qui est le voyant par excellence, qui est la lumière, eh bien on nous dit que Jésus avait un beau manteau, je suis très content pour lui, mais on nous dit surtout que avant la passion, il y a plusieurs éléments. D'abord, dans l'évangile de Jean, avec l'épisode du lavement des pieds, on nous dit que Jésus, avant la passion, renonce au paraître. Et effectivement, au moment du lavement des pieds, on nous dit qu'il enlève son manteau. Et là, il se fait serviteur. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que l'on voit que Jésus, même s'il enlève son beau manteau, même, je dirais, tout nu ou presque tout nu, on nous dit qu'il s'était ceint d'un linge, bon, eh bien Jésus, même au pied de ses disciples, en train de leur laver les pieds, Jésus reste le Seigneur et le Maître. C'est-à-dire que même dévêtu, il garde toute son autorité. Et je crois que c'est là que l'on voit la vraie valeur d'un individu. Que reste-t-il lorsqu'on lui enlève le paraître? Et j'ai là un conseil qui m'avait été donné au moment où moi-même je passais des concours et où j'étais impressionné par les examinateurs. Et quelqu'un m'avait dit, ne te laisse pas impressionner par l'examinateur. Ou je dirais à vous, ne vous laissez pas impressionner par votre patron. Quand il y a quelqu'un qui vous impressionne ou qui vous fait peur, imaginez-le en caleçon. Ou imaginez-le sur le siège des toilettes, comme vous, comme tout le monde, le matin. Et là, vous verrez ce qui reste de sa grandeur, de ses grands airs, de son orgueil. Effectivement, que reste-t-il lorsque l'on dévêt quelqu'un de son statut social, de son apparence, de l'image qu'il veut donner de lui? Et c'est là la leçon du Christ, qui même nu reste notre roi et notre Seigneur. Le Christ n'a pas besoin d'un manteau d'hermine, de siège brillant, doré, extraordinaire pour être notre roi. Le Christ, même sans rien, est notre roi. Et c'est aussi la leçon que nous donne le nouveau-né et que je reprêche à chaque baptême quand Jésus dit « Regardez ces enfants et si vous ne devenez comme eux, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Les bébés sont merveilleux. Le bébé, il est tout nu. Il n'a rien, pas de beaux vêtements, pas de belles voitures, pas de diplôme, rien. Et on dit, il est merveilleux. Heureux celui qui sait que sa propre valeur ne dépend pas de ce qu'il a accumulé, ne dépend pas de l'apparence qu'il donne, ni du regard des autres, mais qui sait être dans cette espèce de naturel de l'être qui fait que la vraie valeur, elle est ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et vous savez que je suis touché aussi par ce qui s'est passé dans les camps de concentration, où justement, on mettait là, réduit à un état moindre que des bêtes, toutes sortes de gens, de tout niveau social, de tout niveau professionnel. Et là, dans ce troupeau, même pas humain, ni même animal, eh bien, il y avait des êtres, des hommes, qui étaient grands, qui étaient beaux, qui étaient plus grands que les autres. Eh bien, c'est là la vraie grandeur. Et ce ne sont pas ceux qui étaient les plus hauts socialement qui étaient les plus extraordinaires dans cette situation. Il y avait des gens qui n'étaient rien au départ et qui se sont révélés là, à l'égal des autres, être d'une extrême grandeur. C'est ça la vraie grandeur et c'est ça la vraie qualité à laquelle nous devons tendre. Et le Christ, vous disais-je, garde toute son autorité et sa grandeur même lorsqu'il n'a plus son vêtement. Et cela va très loin parce que vous savez qu'au moment de son procès, on enlève la robe de Jésus et on le revêt d'un manteau de pourpre, admettons. Ensuite, on enlève le manteau de pourpre pour aller le crucifier. Et là, au Moyen Âge, il y avait un débat qui n'a toujours pas trouvé sa conclusion. La question, c'était de savoir si Jésus était nu ou non sur la croix. C'est-à-dire, est-ce qu'on lui a remis un caleçon pour le crucifier ? Vu qu'il n'avait pas sa tunique, ni sans doute le manteau de pourpre, est-ce qu'il avait un linge autour des reins ou est-ce qu'il n'en avait pas? La question a été débattue très longuement. Et si vous regardez l'iconographie, c'est-à-dire les tableaux des crucifix du Moyen Âge à nos jours, vous verrez que suivant les époques, le Christ est soit vêtu d'un ce qu'on appelle un périsonium, c'est-à-dire d'un linge autour des reins, et il y a un bon nombre de crucifix où Jésus est totalement nu sur la croix. Certains théologiens ont dit, puisqu'on nous dit qu'on lui enlève le manteau de pourpre et qu'on ne nous dit pas qu'on remet quelque chose à la place, c'est que Jésus était nu sur la croix. Historiquement, je n'en sais rien, mais théologiquement, je suis convaincu que Jésus était nu sur la croix. Il était certainement nu, c'est-à-dire que d'abord, il était revenu à l'état d'Adam et Ève avant le péché originel, qui était nu et qui n'en avait pas de honte, nous dit-on. Et donc c'est indispensable que Jésus soit sur la croix comme Adam et Ève avant le péché originel. Et d'autre part, justement, Jésus même, je dirais, livré à la vision la plus impudique, reste notre Seigneur, notre Roi et notre Maître. Et Jésus garde toute sa grandeur. Même nu sur la croix, il est le Fils de l'homme. Donc certains choisissent de miser dans le visible et l'apparence, ce sont les aveugles qui ne voient pas l'essentiel. Parce que, nous dit encore Paul, le visible est pour un temps et l'invisible est éternel. Le visible est pour un temps, c'est le temps de l'attente sur le bord du chemin, le temps de l'attente de la dégradation, le temps de l'attente de la mort. Et l'invisible est éternel, l'invisible c'est le temps du don de soi, de l'oubli de soi-même, je dirais, de l'œuvre pour laquelle nous nous levons. Et nous cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne soyons pas aveuglés par notre préoccupation à paraître, mais abandonnons tous nos manteaux pour nous lever d'un bond à la suite du Christ. Et grâce à Dieu, l'imperfection de notre nudité pourra être couverte par le seul vêtement possible qui est le Christ. Abandonner les cache-misères matérielles, abandonner les protections factices que nous prétendons mettre autour de nous-mêmes pour faire comme dit Paul quand il nous dit « revêtez le Christ ». Lui seul est capable de cacher la honte de notre misère, lui seul est pour nous le manteau de lumière. En revêtant le Christ, nous revêtons l'incorruptibilité et nous nous mettons sur un chemin que nous choisissons librement joyeusement un chemin de lumière et de vie. Amen.